Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, 8 mois de prison ferme pour Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, condamné pour favoritisme dans le dossier des sondages de l'Élysée. Le pass vaccinal entrera bien en vigueur lundi. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi. Le variant Omicron, lui, continue de courir, notamment dans les écoles. Reportage à La Rochelle, dans un établissement privé qui teste lui-même ses élèves. Au Yémen, une frappe aérienne a fait au moins 70 morts. Médecins sans frontières dénonce une situation catastrophique pour les civils. Et puis, nous parlerons aussi du prix des fruits et légumes, plus 9% ces deux dernières années. Et on finira en beauté avec l'exposition consacrée au peintre Paul Klee. C'est le choix du service culture.
Et pour commencer, donc, une nouvelle condamnation pour Claude Guéant dans l'affaire des sondages de l'Élysée.
Oui, l'ancien secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy n'était pas présent au tribunal judiciaire de Paris cet après-midi pour entendre la sentence. 1 an de prison, dont 8 mois ferme. Claude Guéant est actuellement incarcéré après sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Cette fois-ci, il est reconnu coupable de favoritisme pour avoir commandé des millions d'euros d'études d'opinion sans appel d'offres sur des sujets divers et variés comme l'avis des Français sur le couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni. Également condamné à des amendes et des peines de prison avec sursis, l'ancien conseiller Patrick Buisson, l'ex-sondeur Pierre Giacometti, l'ancienne directrice de cabinet Emmanuelle Mignon. Rappelons que Nicolas Sarkozy, couvert par l'immunité présidentielle, n'a jamais été poursuivi dans ce dossier. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
En direct du tribunal de Paris, vous avez suivi ce procès pour France Inter. Et au-delà des peines prononcées, les mots du tribunal sont sévères, Laurélie.
Grave atteinte à l'autorité de l'État, rupture du lien de confiance entre les Français et leurs dirigeants. Dans ce jugement qui a été doublé d'une leçon de morale, le président a longuement insisté sur l'exemplarité à laquelle étaient tenus les collaborateurs de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, à commencer par Claude Guéant, haut fonctionnaire à la carrière éblouissante, a dit le président, qui a pourtant sciemment violé les règles de la commande publique et donc permis aux conseillers de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson et Pierre Giacometti, de s'enrichir frauduleusement sur les deniers de l'État, des agissements intolérables, tense le magistrat, d'où cette peine, 8 mois ferme, non aménageable. Des mots très durs également ont été prononcés à l'endroit d'Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, condamnée à 6 mois de prison avec sursis, et dont le brillant CV a également été mis en avant, élève de l'ENA, ancienne maître des requêtes au Conseil d'État, ce qui ne l'a pas empêché, je cite, d'avoir intentionnellement sacrifié le respect de l'État de droit. Dans son réquisitoire en novembre, le parquet avait dépeint l'Élysée de Nicolas Sarkozy comme les écuries d'Augias de la gestion publique. On est ici sur un autre registre, mais le fond diffère peu. Dans tous les cas, il y aura un second procès, puisque les 4 condamnés ont annoncé qu'ils faisaient appel.
Merci Laurélie Carive, en direct du tribunal judiciaire de Paris.
Le pass vaccinal entrera bien en vigueur lundi.
Oui, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du projet de loi adopté dimanche dernier. Les plus de 16 ans devront désormais être vaccinés contre le Covid-19 pour avoir un pass et accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux bars, ou encore aux transports interrégionaux, un test négatif ne suffira plus. Et alors que les restrictions concernant les jauges, les discothèques ou encore le masque en extérieur vont être levées d'ici un mois, le variant Omicron, lui, continue de galoper, notamment dans les établissements scolaires. Avec ce nouveau record, près de 19 000 classes sont fermées en France. Le gouvernement envisage pourtant d'alléger le protocole sanitaire en cours après les vacances d'hiver, protocole qui a déjà beaucoup évolué. Actuellement, les élèves cas contact doivent se soumettre à 3 autotests. Est-ce suffisant pour freiner les contaminations? Les épidémiologistes sont plutôt sceptiques et dans certains établissements scolaires, on a pris les devants. À La Rochelle, le collège-lycée privé Fénelon Notre-Dame a ouvert son propre centre de dépistage. C'est un reportage de Julien Fleury.
Tom, 10 ans, arrive dans l'amphithéâtre du lycée Fénelon, transformé en centre de dépistage.
Et tu sens des symptômes?
Non, un petit peu mal à la tête, mais c'est tout.
Le matin même, sa maman Christelle a appris que Tom est cas contact d'un camarade de classe, aussitôt prévenu, aussitôt testé.
Ah, je trouve ça vraiment génial, parce qu'effectivement, il faut prendre des rendez-vous, voilà, c'est assez compliqué pour nous parents. Voilà, ça permet d'être plus rapidement en cours si le test est négatif, bien sûr.
Sauf qu'une fois passé par l'écouvillon délicat de l'infirmière Christina Velasquez, la situation de Tom se complique.
Lui est positif, vous voyez.
Il y a le petit trait qui s'affiche, ouais, supplémentaire.
Mais comme ça, on peut prévenir déjà les cas contacts à l'établissement.
Donc c'est une réactivité.
Oui, bien sûr.
Bah, ça veut dire maison, on va faire les devoirs à la maison.
Mais les enseignantes sont formidables et elles vont donner tout le travail. Hein, Tom?
Ouais. C'est Marie Chiarelli, directrice du primaire, qui a eu l'idée de ce dépistage. Énorme travail d'organisation jusque dans les moindres détails, comme ces tests salivaires à disposition des plus petits.
C'est le grand luxe. Ça évite de devoir poursuivre son enfant avec l'autotest dans toute la maison.
Une centaine de tests sont ainsi réalisés chaque jour, suivis par des centaines de mails d'alerte aux familles, ce qui permet au moins de resserrer les liens.
On les salue, on les voit, et les familles apprécient. Hein. Donc ce lien qu'on a avec les familles, c'est le point positif en fait, de cette crise dont on espère se sortir plus fort.
Un reportage de Julien Fleury de France Bleu La Rochelle. Encore une augmentation qui fait mal au porte-monnaie. Les prix des fruits et légumes ont augmenté de 9% en deux ans. C'est ce que révèle l'association de défense des consommateurs Famille Rurale. Et les prévisions pour 2022 ne sont pas très bonnes. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Cette hausse s'ajoute à d'autres augmentations comme le coût de l'énergie.
Oui, les prix de l'alimentaire montent en moyenne de 2,2% sur la période septembre 2019 à septembre 2021, ce qui est déjà beaucoup. Ceux des fruits et légumes, eux, grimpent donc de 9%, loin devant toutes les catégories de produits alimentaires. Selon Famille Rurale, une famille de 4 personnes qui veut aujourd'hui respecter la règle des 5 fruits et légumes par jour, 400 grammes de fruits et légumes doit y consacrer un tiers de son budget alimentaire, avec de fortes disparités, forcément, précise le président de la Fédération Famille Rurale, Dominique Marmier, selon les produits choisis.
Pour la famille qui cible bien ses produits de saison les moins chers possibles, elle arriverait à trouver un panier à 450 euros pour le mois. Mais par contre, si cette même famille fait le choix de s'alimenter en produits bio, ça peut monter jusqu'à 1150 euros par mois. Une alimentation de qualité, c'est un bien essentiel. Et chaque famille dans notre pays doit pouvoir se nourrir d'une manière saine. Or, on s'aperçoit qu'avec les prix d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour les familles à revenus modestes.
Famille Rurale demande au gouvernement de mettre en place un chèque fruits et légumes, un de plus selon la fédération. Il devrait être de 150 euros mensuels pour une famille de 4 personnes avec 2 adultes et 2 enfants.
À suivre donc. Merci Fabien Cazot, chef du service économique de France Inter. Les présidents de départements sont en colère. Ils dénoncent un désengagement de l'État de la protection de l'enfance. Ils ont écrit hier au garde des Sceaux. Depuis le début de l'année, le ministère de la Justice a mis fin au financement des mesures de consultation familiale ordonnée par le juge des enfants pour les mineurs qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est désormais au département de financer ces mesures. Inacceptable pour Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
Le problème, c'est que cette décision, tout d'abord, est unilatérale, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas négociée, discutée avec les départements de France préalablement. Et ensuite, elle vient faire porter une charge supplémentaire qui, jusqu'à présent, relevait des financements de l'État. On ne peut pas systématiquement accepter de faire peser sur les collectivités locales ce sur quoi l'État n'a plus envie de s'engager. Bien évidemment, nous serons attentifs, nous, à la question du parcours de l'enfant. En revanche, cela veut dire qu'il faudra faire des choix au sein de la collectivité et décider d'abandonner autre chose pour pouvoir financer les consultations familiales. C'est nous amener quelque part à une forme d'étranglement financier progressif. L'aide sociale à l'enfance représente des coûts qui sont conséquents dans la plupart des départements. Donc ça n'est pas possible, on ne peut pas encore nous confier une responsabilité de dépenses supplémentaires et en face ne pas nous accorder les recettes. Ça n'est pas équilibré, ça n'est pas juste, ça n'est pas raisonnable.
Jean-Luc Glaise, interrogé par Faustine Calmel.
On passe à l'actualité internationale, Corinne, avec un nouvel épisode dramatique dans la guerre au Yémen.
Au moins 70 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées dans une frappe aérienne à Saada, dans le nord du pays. La région est aux mains des rebelles. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la coalition militaire, dirigée par l'Arabie Saoudite, frappe régulièrement les territoires tenus par les insurgés. Valérie Crova.
Comment ne pas voir dans cette attaque de grande envergure un nouvel acte de représailles après les frappes revendiquées par les rebelles yéménites qui ont touché Abu Dhabi en début de semaine. Depuis 5 jours, la coalition dont les Émirats arabes unis sont membres a multiplié les raids sur Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles. Mais cette fois, c'est la ville de Saada, fief des Houthis dans le nord du Yémen qui était visée. La prison a été prise pour cible. Elle pourrait avoir abrité un camp militaire dans le passé. L'ONG Médecins sans frontières a qualifié d'horrible cette nouvelle attaque. Marc Chacal est responsable des programmes de MSF au Yémen.
L'hôpital, ce matin, à Saada, a dû refuser des blessés tellement ils étaient débordés. Nous savons aussi qu'il y a encore de nombreuses personnes portées disparues. Il est très possible que ça s'alourdisse dans les jours qui viennent.
Toujours la nuit dernière, le port d'Odeida a lui aussi été visé par une frappe aérienne de la coalition, dans laquelle 3 enfants au moins ont été tués, selon Save the Children. Une escalade qui éloigne l'espoir d'un règlement du conflit.
Le conflit s'éternise depuis 7 ans, avec des moments où on a un espoir d'accord, mais qui est très vite annulé par la réalité du terrain.
Depuis 2014, l'ONU estime à plus de 377 000 le nombre de victimes directes ou indirectes de la guerre au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.
Valérie Krova. Pas d'annonce majeure à l'issue de la rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine à Genève, mais les discussions ont été franches et substantielles, assure Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Au menu de ce rendez-vous, la situation en Ukraine. Les États-Unis demandent à la Russie de retirer ses troupes massées à la frontière. Ce qui est sûr, Bertrand Galichet, c'est que ce n'est pas le dernier round.
Après cette matinée de discussion, Sergueï Lavrov attend des réponses écrites de Washington aux demandes du Kremlin dès la semaine prochaine. Il affirme que la Russie n'a jamais menacé le peuple ukrainien et espère que l'émotion va retomber après des pourparlers francs avec les Américains. Pour le secrétaire d'État Anthony Blinken, il n'est pas question d'émotion, mais de fait.
Les faits, c'est que la Russie a amassé des forces très importantes aux frontières de l'Ukraine et continue à le faire, y compris en Biélorussie. Cela donnerait à la Russie la capacité, si le président Poutine le décide, d'attaquer l'Ukraine à partir du sud, de l'est et du nord. Si la Russie veut commencer à convaincre le monde qu'elle n'a pas d'intention agressive contre l'Ukraine, un bon point de départ serait de retirer ses troupes des frontières ukrainiennes.
Aujourd'hui, Moscou réclame le départ pur et simple des troupes étrangères de l'OTAN stationnées en Bulgarie et en Roumanie. L'objectif affiché par les Russes étant de revenir à la situation d'avant 1997, où 14 États issus de l'ancien bloc communiste n'étaient pas membres de l'Alliance Atlantique. La publication de cette demande conforte la thèse de Washington. Moscou formulerait des exigences inacceptables afin que leur refus donne un prétexte à une invasion militaire en Ukraine.
Pour terminer, Corinne, un peu de couleur.
Oui, vous connaissez peut-être ces paysages et ces villes colorées et géométriques. Le peintre suisse Paul Klee est à l'honneur au Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d'Art Contemporain et d'Art Brut, musée situé à Villeneuve-d'Ascq. L'exposition s'appelle Paul Klee, Entre-Monde. À travers 120 dessins, peintures et aquarelles, elle interroge les sources d'inspiration de l'artiste, notamment les dessins d'enfants. Isabelle Pasquier.
Toute sa vie, Paul Klee n'a cessé de vouloir désapprendre pour dessiner comme un enfant et retrouver l'origine de l'art. D'où sa fascination pour les dessins d'enfants, l'art des fous, l'art brut, l'art pariétal et les cultures extra-occidentales. Ce qui lui a valu de figurer dans la catégorie « peinture dégénérée par les nazis ». Mais pour Aragon, Paul Klee était capable d'atteindre aux limites de l'imagination. C'est un martien pour Robert Desnos. Le regard de sa jeune fille possédée est hallucinant. Dans l'exposition, émotion devant ses tout premiers dessins d'enfant qu'il considérait comme ce qu'il y a de plus important, les Italiens et les Hollandais mis à part. Jeanne-Bathilde Lacour, co-commissaire.
Paul Klee, il a l'air d'avoir cherché à retrouver les origines de l'art, en fait. Une forme d'élan, d'envie de créer, et ça dès l'enfance. Peut-être dès l'enfance de l'humanité, c'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à l'art préhistorique. Il cherche cet élan créateur, et donc il le cherche chez des artistes qui ne sont pas forcément reconnus comme des artistes. Donc les enfants, les patients des asiles psychiatriques. Ce que Klee va trouver dans l'art préhistorique, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la spontanéité, d'une grande simplicité, qu'il va essayer de reproduire lui-même, notamment à la fin de sa vie.
Avec sa géométrie des couleurs, Paul Klee nous fait entrevoir des mondes qui nous sont inaccessibles.
L'exposition Paul Klee, c'est au LAM de Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 27 février.
Merci beaucoup Corinne, on vous dit à demain, on va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Soleil au sud, nuages au nord.
Oui, la journée de demain s'annonce largement ensoleillée entre l'Aquitaine, les Charentes, les Pyrénées, les régions de la Méditerranée et les Alpes. Dans les plaines du sud-ouest, en particulier dans la vallée de la Garonne, il faudra quand même attendre la dissipation des brouillards givrants présents au lever du jour pour profiter de ce temps ensoleillé. Et puis sur la moitié nord, ce sont les nuages qui l'emporteront. En début de journée, ces nuages seront aussi doublés de brouillard. La couche nuageuse va un peu se déchirer, notamment près de l'Atlantique et entre la Seine-Maritime et le Boulonnais. De belles éclaircies se propageront même du Jura au plaine de Franche-Comté. En revanche, sur le Grand Est, les nuages resteront imposants et pourront même donner un peu de pluie, voire de la neige jusqu'à la mi-journée. Alors les quantités de neige attendues ne sont pas très importantes, mais pourront quand même blanchir les sols demain matin, en particulier sur le Bas-Rhin.
Tout ça, ça veut dire froid le matin, frais l'après-midi.
Effectivement, et minimales comme maximales resteront sous les valeurs de saison demain. En début de matinée, les gelées seront fréquentes, localement fortes, avec par exemple moins 4 degrés prévus à Toulouse, Mont-de-Marsan, Albertville, Belfort ou encore Pérol en Provence. Demain après-midi, il fera 5 degrés à Lyon, Strasbourg et à Tours, 6 degrés pour Nantes, Lille, Nevers, Montélimar et Montauban, 7 degrés à Paris, Rouen et Bayonne, 8 degrés pour Rennes et Bordeaux, ambiance un peu plus douce autour de la Méditerranée, mais Mistral et Tramontane seront encore un peu sensibles, 11 degrés pour Marseille, 12 degrés à Nice et Montpellier et jusqu'à 14 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.